Maintenant, on vient à votre rôle particulier, dans le sens que on veut savoir si c'est un niveau assez élevé. Est-ce que vous avez participé décrire les moments ou les enjeux décisifs qui ont créé des précédents ou qui ont influencé la mise en œuvre de la Convention? Est-ce qu'il y a des moments clés ou des enjeux particuliers qui ont vraiment influencé la mise en œuvre de la Convention? Est-ce qu'il y a des études, des cas particuliers qui vous reviennent?
Oui, bien sûr, je pense à des cas particuliers très, très lourds de signification. Je pense à l'inscription de Jérusalem sur la liste du patrimoine mondial, dont j'ai été le rapporteur pour l'ICOMOS. Ça s'est fait dans un climat extrêmement tendu. Et je crois que les problèmes qui ont été posés à ce moment-là sont toujours des problèmes actuels. Je pense qu'il y a eu aussi d'autres moments. Je pense en particulier au comité qui s'est tenu à Tunis et où on a eu à discuter du cas de Dubrovnik, qui était déjà inscrit sur la liste du patrimoine mondial. Dubrovnik, c'était le moment de la guerre de l'ex-Yougoslavie où la ville avait été bombardée par les troupes serbes. Et on a décidé de mettre Dubrovnik sur la liste du patrimoine mondial en péril, alors que dans la procédure recevable jusque-là, il fallait que ce soit l'État parti qui en fasse demande, et il ne risquait pas d'en faire demande, puisque l'État parti était représenté à ce moment-là au comité par les Serbes, n'est-ce pas, qui venaient de bombarder. Donc on l'a fait. C'est ces deux moments qui me viennent à l'esprit, mais bien entendu, il y en a beaucoup d'autres. Je pense que si je devais citer un troisième exemple, Christina, ça serait quelque chose qui vous touche de plus près. Lorsque nous étions réunis à Banff, nous avons discuté le cas du Lake District. Le Lake District n'a pas été inscrit sur la liste du patrimoine mondial. C'est un de mes grands chagrins. Je pense qu'on a fait une erreur historique. Et je pense que même si, à l'occasion de ce débat, on a lancé la réflexion sur les paysages culturels, on n'a toujours pas résolu le vrai problème des paysages culturels. C'est-à-dire que pour moi, la Convention reste toujours un instrument un peu archaïque où on oppose la protection de la nature à la protection des biens culturels, où il y a une vision large et généreuse de la nature qui a été produite par l'UICN et par les écologistes par la suite, et où il y a une perception encore très limitative de la culture, parce que la culture, pour nos pères fondateurs, se confondait avec l'architecture. Et donc, je pense que à l'heure actuelle, tout le monde s'est protégé un minaret, un clocher, une maison, mais que personne ne s'est protégé un mode de vie, un grand paysage, un ensemble fragile du fait de la mondialisation. Et que sur la question des paysages culturels, oui, je pense que nous sommes très en retard.
Est-ce qu'on peut retourner à Jérusalem parce que c'était en 81 que c'était inscrit sur la liste? Nous, on n'était pas là et je serais intéressée de savoir comment ça s'est fait parce que j'ai jamais compris pourquoi le Jérusalem était inscrit sur la Jordanie. Comment tout ça
Alors,
s'est
bon,
produit?
il faut se replacer dans le contexte de la situation politique de ce temps et de la décision prise par le système des Nations Unies qui a considéré que les acquisitions israéliennes au terme de la dernière guerre étaient des occupations de territoire. De ce fait, une proposition concernant la proposition de la conservation de la vieille ville de Jérusalem qui aurait été formulée par Israël aurait été irrecevable, comme serait irrecevable de nos jours une proposition concernant par exemple Famagouste ou une ville de Chypre Nord qui serait formulée par le gouvernement mis en place après l'invasion turque et qui n'a jamais été reconnu par la communauté internationale. Alors, très curieusement, dans le partage des compétences dessinées par les Nations Unies, la Jordanie était considérée comme le protecteur des lieux saints de l'islam, c'est-à-dire du Haram al-Sharif, de la plateforme des mosquées, et c'est à ce titre qu'une proposition, qu'une proposition de protection de la vieille ville de Jérusalem a été faite. Alors, à ce moment-là, à mon sens, c'est un moment clé de la vie de la Convention. Si on avait dit « ça ne nous regarde pas », c'est un problème uniquement politique, ça veut dire que personne ne croyait à la valeur universelle des biens de la liste du patrimoine mondial. Car s'il y a un site au monde qui a une valeur plus qu'universelle, c'est bien Jérusalem. Jérusalem où se retrouvent les croyants de trois religions du livre, les juifs, les chrétiens, les musulmans, et Jérusalem aussi où il y a une accumulation monumentale considérable depuis la période hellénistique jusqu'à la fin de la période ottomane et même à une période plus récente. Donc, dire Jérusalem ça ne me regarde pas, ça paraissait impossible. Il y a eu des débats à ce sujet, gouvernementaux en France, et il y a eu des débats à l'ICOMOS, et tout le monde a dit il faut qu'on en parle. Bon, très bien. Comment en parler ? Alors, la ligne qui a été choisie, et qui n'était pas inintéressante, consistait à noter que la plupart des ensembles monumentaux jouissaient d'une protection qui n'avait rien à voir avec la situation politique. C'est-à-dire que, effectivement, l'esplanade des mosquées était, le protecteur était la Jordanie, et le roi de Jordanie venait de dépenser des sommes rondelettes pour faire dorer le dôme de la mosquée du Rocher, bien brillant, hein, et pour restaurer la mosquée Al-Aqsa. Le Saint-Sépulcre est géré par la communauté chrétienne et l'architecte a toujours été, était toujours jusqu'à cette époque, un architecte français qui avait d'abord été le père Coinon, un architecte jésuite et qui a été depuis Yves Boiré. Donc c'était réglé dans un cas, si vous voulez, spécial. De même que la communauté orthodoxe grecque, la communauté arménienne, etc., etc., contribuaient financièrement et matériellement, et dans des conditions pas du tout déplaisantes, à la gestion des édifices les plus importants. Voilà. Alors, question, est-ce que Jérusalem c'est important ? Oui. Est-ce que Jérusalem s'est géré correctement ? Oui. Donc, pourquoi ne pas ? Et on s'était arrêté là. Alors, en revanche, je me souviens qu'il y a eu ensuite une séance pleine de tensions, bien évidemment, puisque les délégués, l'observateur d'Israël et le délégué des États-Unis ont tout fait pour qu'il n'y ait pas d'inscription, pour que ça ne soit pas fait. Mais en revanche, il y a eu, après que l'inscription ait été acquise, un moment inconfortable où le groupe arabe a demandé que Jérusalem soit inscrite sur la liste du patrimoine en péril. Et là, il y avait une espèce de difficulté intellectuelle pour nous, puisque nous venions de dire les monuments sont gérés par les uns et par les autres, ils sont très bien gérés, donc pourquoi voulez-vous ajouter du péril à cette gestion ? Et bien entendu, le péril existe, il existe toujours, il peut y avoir toujours des événements qui mettent à mal ce patrimoine monumental. Mais je considère que l'examen de Jérusalem a constitué un moment important et que, paradoxalement peut-être, ça a énormément ajouté à la crédibilité de la liste du patrimoine mondial. Je dis que ça a ajouté à la crédibilité parce que si ça n'avait pas été examiné, bon, on aurait dit ils choisissent le plus facile, ils collectionnent des cartes postales et ils se détournent des vrais problèmes.
Mais ça c'est intéressant parce qu'on entend des versions partielle de cette inscription-là, mais on a compris que c'était assez tendu dans la séance à cause des Américains.
C'était tendu. Ouais. C'était très tendu. C'était pour moi, j'ai le souvenir de prises de parole successives, très, très difficiles, où je devais mesurer mes termes, ce qui n'est peut-être pas très facile pour moi. Je n'ai pas toujours mesuré mes termes, et voilà.
Mais vous présentez le site.
C'est moi qui ai parlé constamment au nom de l'ICOMOS. Merci. au cours de cette séance. Voilà. Sous le regard critique du représentant de la France, entre autres, qui ne voulait pas que je dise des choses contraires à ce que la France voulait qu'il dise, mais je lui disais, là, je suis pas français pour le moment.
Voilà. Mais peut-être avant de continuer, j'aimerais ça, c'est par intérêt personnel, c'est de savoir, parce que je n'étais pas là pour le débat, parce que vous parliez des évaluations des années 80 et les discussions, c'est de la discussion sur la ville de Québec. Parce qu'on m'a dit qu'il y avait beaucoup de difficultés avec la ville de Québec, mais moi, je n'étais pas là. Est-ce que vous vous rappelez de
ça? Oui, je me souviens très bien. Je me souviens que j'ai défendu cette candidature à l'ICOMOS avant que l'ICOMOS fasse son marché et que j'étais pas très soutenue. Voilà. C'est-à-dire que ce qui m'était répondu avec une extrême brutalité, c'est la chose suivante. Si Québec était en Europe, personne ne proposerait Québec.
Et moi, c'est à peu près ça que j'ai compris.
Et moi, je répondais, mais justement, Québec est au Canada. Donc, ça change tout. Et si vous voulez, il y avait, alors, du côté de l'ICOMOS, bon, c'est pas la peine de parler de... trop précisément de personnes plutôt que d'autres, mais une sorte de résistance en disant les fortifications de Québec, bon, bah, y en a partout, des comme ça, des fortifications bastionnées, ça n'a rien de remarquable. Les monuments de Québec, bon, les monastères, etc., si vous les prenez l'un après l'autre, bon, où est l'intérêt, etc., etc. C'est-à-dire, il y avait une manière analytique de prendre les éléments de la ville, de les comparer à des éléments européens et de dire que c'était pas valide. Et il n'y avait pas une approche globale, qui me paraît la seule justifiée, qui consistait à dire oui, ça a été fait là où ça a été fait, quand ça a été fait, dans des conditions spécifiques, avec une population qui était ceci et cela, des attentes qui étaient, bon, un climat qui était, etc. Donc, c'est parfaitement important, intéressant, etc. L'ICOMOS, si on pose la question, m'a parfois mandaté pour dire des choses que je ne pensais pas. J'ai défendu, pour être précis dans la réminiscence, j'ai défendu le site de Holoke. Je ne crois pas du tout que c'était une bonne idée. Enfin, je l'ai fait.
Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres enjeux ou des moments ou des décisions qui ont comme... affecter la façon dans laquelle la convention s'est évoluée?
J'ai un petit peu la fierté d'avoir fait modifier le critère 2 qui, à un moment donné, parlait uniquement de l'influence exercée et pas de l'influence reçue ou de l'échange d'influence. Je m'explique. Mm-hmm. Le critère 2, tel qu'il avait été formulé aux origines de la convention, avoir exercé une influence favoriser les têtes de série. Des têtes de série, voilà, situées dans des bassins culturels bien délimités. C'est-à-dire que, bon, on aurait dit Saint-Pierre de Rome, c'est très bien parce que ça a été imité à tel endroit, à tel endroit, à tel endroit. Mais si on avait examiné au nom du critère de Goa, par exemple, Goa n'ayant pas exercé d'influence directe sur une série d'églises du sud de l'Inde, bon, on n'aurait pas pu mettre le critère 2. Et moi, je me suis toujours insurgé contre cette lecture du critère 2. Je pense que je l'ai dit quand j'ai fait un petit rapport pour les 20 ans du Comité du patrimoine mondial. Et je pense que, avec d'autres, j'ai contribué à faire changer la formulation du critère 2 et à admettre que les influences n'étaient pas à lire dans un sens unilatéral, colonial, machiste, tout ce que vous voulez, enfin, comme c'était le cas au début. Voilà, ça, je pense qu'il y a eu une réflexion intéressante à ce sujet, que cette réflexion s'est un petit peu constituée et renforcée au moment où on a examiné des sites du Brésil, en particulier. Quand on regarde les sculptures de la Leica Digne, par exemple, on s'aperçoit que c'est des machines à remonter le temps, que tantôt ils s'inspirent de la sculpture espagnole de la fin du XVe siècle, tantôt ils s'inspirent du baroque, etc. Bon, néanmoins, on est au début du XIXe siècle, c'est de l'art brésilien pur. Bon, ça serait extrêmement malencontreux de juger ça du point de vue du critère qui veut qu'il y ait le monument tête de série et puis ensuite que ça dégénère petit à petit dans une série de copies et de répliques. Voilà, là je pense qu'on a fait, un effort qui a été positif. Je pense aussi que quand on a parlé toujours dans ce domaine de l'influence, quand on a essayé d'élargir le débat et de dire que l'influence ne devait pas se mesurer seulement en termes d'architecture, parce que c'était influence exercée sur l'architecture, l'urbanisme, l'art des jardins, enfin des histoires comme ça, mais d'une manière plus large, je pense qu'on a eu raison, vous voyez. C'était des évidences quand on s'est occupé, par exemple, quand on s'est occupé de... Je cherche un bon exemple, mais de la scène de Leonardo da Vinci dans son couvent milanais. La scène de Leonardo da Vinci est un des tableaux qui a été le plus copié, qui est à l'origine, je dirais, du gros plan en peinture, de l'instantané en photographie. On ne peut pas penser à l'évolution du cinéma des années 30 sans référence à cette chose-là. Bon, si on lit les critères de l'UNESCO, la scène de Léonard de Vinci n'a exercé d'influence ni sur l'architecture, ni sur l'urbanisme, ni sur les jardins, donc elle n'a pas exercé d'influence, point. Ça ne va pas. Donc je pense que des choses comme ça, petit à petit, on s'est dégagé du mot à mot qui avait été formulé par des architectes dans les années 72 et qu'on est arrivé à des conceptions plus larges. Ces conceptions plus larges ont bénéficié très certainement à l'architecture vernaculaire, aux installations humaines et des établissements situés dans certaines régions de l'Afrique, de l'Asie ou de l'Amérique qui n'auraient pas pu être inscrits stricto sensu à la fin des années 70 ou au début des années 80 parce que ça ne collait pas avec le wording de la convention, ont pu être inscrits parce qu'il y a eu cette évolution.
Est-ce que vous trouvez que la stratégie globale ou NARA, toute la question d'authenticité, est-ce que c'est pour vous les moments importants dans l'évolution
de... Les deux réflexions épistémologiques importantes, d'après moi, ça a été effectivement la conférence de NARA et puis la réunion sur la stratégie globale, à la différence près que NARA, c'était une grande foire où beaucoup de personnes ont pris la parole et que la publication qui en est sortie est une bonne publication scientifique. Et que la stratégie globale, c'était un petit truc de l'UNESCO en vase clos, et qu'il n'y a jamais eu pour nous la possibilité d'exprimer ou même de rappeler ce qui avait été dit pendant les débats. Ça, je pense que c'est un peu dommage.